Et on va laisser le micro aux chroniques apatrides anonymes avec Marie-Ève.
Salut Marie-Ève.
Oui, bonjour, salut. Je suis bien contente d'être de retour après la pause de la période estivale. Mes deux collègues Simon et Mathieu sont déjà venus vous visiter. Alors, c'est mon tour. Aujourd'hui, on va commencer avec une nouvelle qui nous concerne, le Canada. On le savait déjà en 2008, si je me souviens bien, il y avait eu une commission d'enquête, c'était la commission d'enquête Iacobucci, qui avait conclu que les autorités canadiennes, notamment le SCRS et la GRC, avaient une complice indirectement, en tout cas, de la torture de ressortissants canadiens en Syrie. Mais là, on a appris cette semaine, la semaine dernière, en fait, que non seulement elle était complice de façon indirecte, mais de façon directe, c'est-à-dire que il y a trois cas, en fait, Abdullah Al-Malki, Ahmad Al-Malti et Mouayed Nouridine, qui ont été arrêtés et torturés en Syrie de 2002 à 2004. Et c'était en fait l'ambassadeur canadien en Syrie, rien de moins, à l'époque, Franco Pillarella, qui a transmis aux autorités syriennes les questions qui avaient été formulées par le SCRS et la GRC. C'est ce que révélait Radio-Canada, CBC, la semaine dernière. Donc là, on voit que c'est vraiment une complicité directe. Je reviens un peu sur ces trois cas-là. D'abord, Abdullah Al-Malki, qui avait été placé sous surveillance au pays et à l'étranger, sans preuve solide contre lui. Il était soupçonné d'être membre d'Al-Qaïda par la GRC et le SCRS. Donc, il a été arrêté en 2002, alors qu'il rendait visite à sa mère en Syrie. Donc, comme je vous disais, durant près de deux ans, il a été emprisonné et torturé à répétition dans la prison de Farfalestine au centre-ville de Damas. Après de nombreuses sessions de torture, il a fini par dire qu'il était proche collaborateur d'Oussama Ben Laden. Mais bon, on sait que c'est un mensonge la plupart du temps pour faire cesser la torture. Monsieur Al-Malki lui-même a dit que s'il m'avait demandé si j'étais un canard, j'aurais dit oui. Et donc, malgré les faux aveux, la torture s'est poursuivie. J'explique un peu le processus, en fait. C'est que en octobre 2001, les agents de la GRC ont convoqué le SCRS qui avait sollicité leur aide pour faire avancer les enquêtes par rapport au terrorisme. Et dans le compte-rendu de cette rencontre-là, on dit que Abdullah Al-Malki est une cible prioritaire du SCRS depuis deux ans. Al-Malki a été identifié comme un possible agent d'approvisionnement de l'organisation d'Oussama Ben Laden. Le lendemain, le mot « possible » est retiré de la note de la GRC et on y lit plus tôt « On croit qu'Al-Malki est un agent d'approvisionnement pour Ben Laden et Al-Qaïda ». Donc, la GRC envoie finalement une alerte au terrorisme à travers le monde, disant qu'Abdullah Al-Malki est décrit par le CRS comme un membre important d'Al-Qaïda. Cet avis est transmis, évidemment, à la CIA et au service secret syrien. Pourtant, en plus, c'est que des agents de la GRC, qui étaient entre autres chargés de la surveillance de M. Al-Malki à l'automne 2001, estimaient que son comportement n'avait rien de suspect. Un autre cas, c'est celui de Ahmad Al-Mahdi, qui est un Canadien d'origine égyptienne. Lui a été aussi arrêté lors d'un voyage en Syrie pour son mariage en novembre 2001. Et les courriels internes de la GRC qui ont été dévoilés montrent que la GRC savait bien ce qu'Al-Mahdi allait subir, c'est-à-dire qu'il serait arrêté et interrogé à la « syrienne », entre guillemets. Même chose que pour Monsieur Al-Malki. Monsieur Al-Malki a affirmé qu'il était membre d'une cellule d'Al-Qaïda au Canada, qui préparait un attentat contre le Parlement. Ça, c'était à la suite de la torture. Il a été torturé à l'aide de décharges électriques. Et voilà. Et pour Mouayed Nouridine, comme je le disais, c'est sensiblement le même scénario. Les trois Canadiens torturés poursuivent le gouvernement. Leur cause doit être entendue en janvier 2017. Et là, les 18 000 documents sur lesquels CBC Radio-Canada a mis la main seront dévoilés lors de ce procès-là. Un petit rappel aussi que le partage d'informations par le SCRS et la GRC avec des autorités étrangères relève d'une directive des conservateurs qui avait été adoptée en 2010. Donc, ça permet le partage des renseignements, mais aussi l'utilisation de renseignements obtenus sous la torture, alors qu'on sait très bien que on peut pas se fier à ce genre de renseignements-là. En janvier, le gouvernement libéral de Justin Trudeau avait dit en janvier dernier qu'il allait revoir cette politique-là, ce qui n'a toujours pas été fait. Donc, je vais continuer un petit peu dans la même veine, mais sous le signe quand même rigolo, parce que pendant que le SRS partage des informations sensibles de ressortissants canadiens avec des services secrets étrangers, il mettait à jour cette semaine son guide à l'intention des fonctionnaires fédéraux qui sont en voyage et dans lequel le SCRS soutient que la menace terroriste qui pèse sur les Canadiens a changé depuis les attaques survenues à Saint-Jean-sur-Richelieu et au Parlement canadien en octobre 2014. À la lumière du sujet dont je viens de parler, on aurait pu juste remplacer quelques mots en disant « la menace de torture qui pèse sur les Canadiens a changé depuis la directive des conservateurs sur le partage d'informations avec des autorités étrangères », n'est-ce pas? Quelques exemples de qu'on retrouve, ces conseils qu'on retrouve aux voyageurs fonctionnaires à l'étranger. On leur dit, entre autres, « soyez au courant de l'information à votre sujet qui est accessible au public ». Dans Google, faites une recherche sur votre nom et votre poste avant de présenter votre demande de visa afin de savoir ce qu'il est possible de trouver à votre sujet sur Internet. Mais on aurait pu aussi dire à l'intention de citoyens canadiens, demandez à la GRC de vous transmettre les informations qu'elle possède à votre sujet et qu'elle s'apprête à transférer à des autorités étrangères. Autre exemple de conseil, n'apportez pas de carnet d'adresse ou de liste de noms et de coordonnées qui ne sont pas nécessaires pour le voyage. On aurait pu lire à l'intention des Canadiens, assurez-vous d'effacer tout contact direct ou indirect avec des personnes qui pourraient ou auraient pu être liées au terrorisme. D'autres petits conseils, dans de nombreux pays, vous devrez présumer que vous faites l'objet d'une filature. Sans devenir paranoïaque, restez toujours raisonnable et méfiant. Ça, c'est tel quel. Je pense qu'on n'a même pas besoin de rien réécrire pour que ce soit légèrement ridicule. Autre conseil, vous devez être vigilant et surveiller la progression de vos fréquentations, particulièrement vos nouvelles relations et celles avec des étrangers. Ou encore, une autre de ces fameux conseils, tenez toujours pour acquis que vos conversations peuvent être écoutées dans les lieux publics et les transports en commun. Écoutez, c'est le SCRS qui le dit et la GRC, donc je pense que on n'a pas besoin d'aller plus loin. Autre nouvelle cette semaine dont je voulais vous parler, je vous amène sur la scène internationale cette fois-ci avec la crise des migrants en Europe. Il y a deux rapports qui sont sortis, un de Amnesty International et un autre du Haut Commissariat aux réfugiés de l'ONU. Celui d'Amnesty International, le rapport qui s'intitule « Nos rêves sont brisés » est assez éloquent et intéressant à lire. J'irai pas en détail sur le rapport parce que ce serait trop long. Mais on y retrouve en fait des études de cas assez détaillées, des éléments de preuve, des données sur l'insécurité, les insécurités et les grandes difficultés auxquelles sont condamnées des personnes extrêmement vulnérables, c'est-à-dire les réfugiés en Europe, en raison du manque de volonté politique des gouvernements européens. On insiste plus particulièrement sur le cas de la Grèce parce que un an après les engagements qui visaient à relocaliser plus de 66 000 demandeurs d'asile qui se trouvaient en Grèce, seulement en date d'aujourd'hui, de la mi-septembre, moins de 6 % de ces personnes-là ont été relocalisées. Donc, c'est même pas sur 66 000, là, c'est même pas 4 000 personnes qui ont été effectivement relocalisé. Pour vous donner une petite idée, ça prendrait 18 ans pour que, si tu sais, à ce rythme-là, pour que soient respectés les engagements en matière de relocalisation pris il y a un an de la part des États européens. Si on regarde dans le tableau, on peut trouver des données, là, les pays qui ont le plus fait, si on veut, en termes d'accueil des réfugiés depuis le début de l'année 2016. Il y a la France avec à peu près 1 500 demandeurs d'asile, les Pays-Bas, qui est un gros 439, la Finlande et le Portugal, le Portugal un peu plus de 300. Et les pays qui ont peu ou en fait qui ont rien fait, qui avaient promis d'accueillir un certain nombre de demandeurs d'asile et qui n'ont accueilli un gros zéro. Il y a l'Autriche, la Hongrie, la Pologne et la Suède. L'Autriche et la Hongrie, ça ne nous surprendra pas trop, étant donné les gouvernements d'extrême droite... d'extrême droite, et la Pologne et la Suède également. Puis on peut retrouver des recommandations, dont évidemment, bon, augmenter le nombre de places en relocalisation, accélérer le processus également, accorder davantage de visa humanitaires et de mettre en place des processus accélérés et accessibles de regroupement familial. Quant au rapport du Haut-Commissariat aux réfugiés, il revient sur les constats d'Amnesty International aussi concernant la Grèce, mais on a quelques autres chiffres aussi. Le nombre de réfugiés de migrants ayant atteint les côtes européennes depuis de l'année a dépassé la barre des 300 000, ce qui est considérablement inférieur aux 520 000 qui avait été enregistré au cours des 9 premiers mois de 2015. 520 000, c'est seulement par la mer, je précise, mais qui est quand même supérieur au nombre total qui était enregistré pour l'année 2014. On retrouve aussi dans le rapport un examen un peu plus précis des deux principaux pays d'arrivée, soit la Grèce et l'Italie, où il y a vraiment des grosses différences. Bon, pour ce qui est des arrivées en Italie, c'est sensiblement la même chose cette année comparativement à l'année passée, soit autour de 130 000, tandis que la Grèce a connu une forte augmentation du nombre d'arrivées par la mer l'année dernière, avec un peu moins de 400 000. Cette année, c'est un peu moins de 170 000, donc une diminution quand même de 57 %. Si vous voulez lire les deux rapports, vous avez juste à faire rapport Amnesty International Migrants Europe sur le net et vous allez tomber dessus. Même chose pour le Haut-Commissariat aux réfugiés.